France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui le protest song ou la chanson contestataire de l'Amérique des années 60. Ce qui ressort de ma musique, c'est un appel à l'action. Bob Dylan. Ans d'histoire. Au pays du blues, du rock et du folk, c'est tout naturellement en chanson que quelques musiciens contestataires des années 60 ont exprimé leur révolte contre une Amérique qu'ils n'aimaient pas, celle de la violence, du conformisme, du racisme et de la guerre du Vietnam. Pendant 10 ans, ils ont pesé sur la politique des États-Unis en mobilisant derrière eux des centaines de milliers de jeunes Américains avec des chansons qui ont fait le tour du monde. C'était l'époque de Pete Seeger, John Baez, Nina Simone, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Tom Paxton, Country Joe, les Byrds, mais aussi du plus célèbre d'entre eux qui, en entrant un jour dans un café de New York en 1961, allait mettre le feu aux poudres, Bob Dylan.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Charles Gancel, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était Blowing in the Wind, Bob Dylan, enregistré à New York le 7 décembre 1962, c'est-à-dire au tout début des chants contestataires des années 60, du protest song auquel vous venez de consacrer un livre. Pourquoi dites-vous que c'est avec Bob Dylan que commence le protest song et avec cette chanson, Blowing in the Wind, que tout le monde fredonne encore aujourd'hui, mais sans très bien percevoir ce qu'elle peut avoir de révolutionnaire?
Alors évidemment, dire que le protest song commence avec cette chanson-là et avec Bob Dylan, c'est peut-être un peu hâtif. Par contre, la chanson, il faut garder en tête que c'est une chanson d'esclave. C'est une chanson qui est créée par les esclaves noirs, une mélodie qui est créée par les esclaves noirs réfugiés au Canada. Donc elle est d'abord une belle chanson. C'est-à-dire qu'elle intègre, cette révolte, elle intègre la souffrance. Elle est aussi symbolique parce qu'elle naît dans le village, qui est le lieu qui est le lieu creuset de toute cette
époque-là.
À New York, dans le sud de l'île de Manhattan. Elle est évidemment symbolique parce qu'elle est écrite par Dylan, qui va avoir un trajet fulgurant et extraordinaire, mais aussi par un autre qui l'aide à l'écrire, qui s'appelle David Blue, et que tout le monde a oublié. Et évidemment, elle arrive à un moment qui est un moment charnière pour toute une génération qui commence à s'interroger sur elle-même, sur son pays.
Dylan est totalement inconnu. Hein. Et vous dites, au fond, ça commence. Il arrive, un jour, il pousse la porte d'un café de Greenwich Village, il s'appelle le Wa, je crois, le café
Wa. Oui.
Il s'appelle Robert Zimmerman, hein. Il prendra le nom de Dylan, mais il est totalement inconnu quand il débarque.
Il est totalement inconnu, en tout cas au village. Il est très rapidement connu parce qu'il est nettement plus doué que les autres. C'est quelqu'un qui a un charisme et un contact tout à fait extraordinaire, même très jeune, qui est une véritable éponge. Ses amis de l'époque le décrivent comme ça, c'est-à-dire qu'il attrape tout, il transforme tout. Comme il est nettement plus doué que les autres, il le transforme mieux. Par exemple, cette chanson, il prend cette mélodie qui est une mélodie des esclaves traditionnels, Pete Seeger la reconnaît tout de suite, et il en fait Blowing in the Wind. Elle est très différente, cette chanson, de tout ce qu'on a entendu. Elle est différente parce qu'elle n'est pas une chanson de dénonciation directe. Les gens qui tiennent le pavé à cette époque-là sont des gens qui contestent directement des faits sociaux et qui les décrivent. Cette chanson n'est pas descriptive, elle est allusive. C'est une chanson construite sur les questions.
Et oui, il faut rappeler 2-3 mots, hein, parce que tout le monde ne connaît pas forcément l'anglais. Combien d'années une montagne peut-elle durer avant d'être balayée par la mer? Combien d'années les hommes peuvent-ils vivre avant d'avoir le droit d'être libres? La réponse, mon ami, est portée par le vent. La réponse est portée par le vent. Bon, c'est... Oui, il y a quelque chose quand même de révolutionnaire. En tout cas, une allusion.
Hein. Il y a quelque chose de fort. C'est qu'à partir du moment, on le sait très bien, c'est Malraux qui disait « Peu importe que j'ai apporté des réponses, si j'ai posé les bonnes questions ». C'est une chanson qui est construite là-dessus. C'est-à-dire, en fait, apporter la réponse que vous voulez.
Alors, cette chanson est un triomphe dès le début. Elle va faire de Dylan le porte-parole de toute une génération de chanteurs contestataires qu'on va retrouver dans leur premier combat, qui est le combat pour les droits civiques au début des années 60. Hein, c'est vraiment le combat le plus important. La guerre du Vietnam n'a pas encore vraiment commencé, mais la guerre dans laquelle ils vont se lancer, c'est celle contre la ségrégation. Charles Gancel.
Oui, le combat il a commencé déjà longtemps avant, hein, même au début du siècle, mais enfin il se dramatise à partir du milieu des années 50 avec le fameux boycott des bus de Montgomery, qui est un événement important parce qu'il permet à un jeune pasteur noir de l'époque d'émerger, c'est Martin Luther King, qui prend la tête en fait du mouvement.
Il faut rappeler qu'initialement, c'est parce qu'une femme noire avait refusé de se lever pour laisser s'asseoir un blanc, ce qui était prévu dans le règlement de cette société de bus à Montgomery, qu'il y a eu un incident grave, on a chassé la femme, et puis Martin Luther King, à ce moment-là, décide de boycotter. C'est une manifestation qui est d'abord non-violente. Hein. C'était un admirateur, il faut le rappeler, de Martin Luther King, de Gandhi.
Elle est non-violente à partir du moment où vous considérez qu'un boycott n'est pas violent. Mais dans l'Amérique, touchée à la capacité de profit d'une société de transport, c'est probablement considéré comme un sacrilège. En tout cas, ça porte puisqu'au bout d'un an, ils obtiennent gain de cause et l'État fédéral décide de véritablement appuyer les lois de déségrégation sur les transports. Mais c'est loin d'être fini. Cela dit, ce qui est intéressant, parce que les détails sont quand même toujours dans ces histoires. Cette femme monte dans le bus. La coutume veut que les quatre premiers rangs soient réservés aux Blancs. Donc à partir du cinquième rang, les Noirs peuvent s'asseoir. Mais si jamais les quatre premiers rangs sont pris, alors les Noirs doivent dégager le cinquième. Et c'est ça qui se produit. Elle rentre, les quatre premiers rangs sont pris, elle est au cinquième rang et elle refuse de se lever. Et c'est ça qui va mettre le feu aux poudres.
Alors, ce combat va se poursuivre, puisque ça, c'est en 1955, pendant de longues années. C'est un combat non violent, comme cette fameuse marche sur Washington, à l'issue de laquelle 250 000 manifestants ont repris en chœur la chanson, la chanson peut-être la plus célèbre du protest song, après avoir entendu Martin Luther King. C'était à Washington, le 28 août 1963.
Freedom Now Movement, hear me. We are requesting all citizens to move into Washington, to go by plane, by car, bus, any way that you can get there. Walk if necessary. Please join. Go to Washington.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Yeah.
C'est John Baez, We Shall Overcome, Nous Vaincrons, des paroles chantées aussi, on l'a entendu par les manifestants de la marche sur Washington en 63. Célèbre cette chanson, aussi célèbre que le fameux rêve que l'on a entendu aussi de Martin Luther King. C'était un peu la Marseillaise au fond du protest song aux États-Unis, We Shall Overcome, Charles Gancel.
Oui, incidemment, on chantait la Marseillaise aux États-Unis au début aussi, du siècle aussi. Hein. C'était une chanson.
Mais ça, c'est plus la Marseillaise.
C'est plus la Marseillaise. Bon, c'est une chanson qui est née au début du siècle aussi, qui a été recueillie et remise, on va dire, à jour. Même le texte en a été changé par Pete Seeger et qui est devenue le symbole de ce mouvement. C'est extraordinairement important de rappeler l'importance de la musique dans ces moments-là. Je voudrais le citer parce que c'est très beau. Phyllis Martin, qui était un des secrétaires du SNCC, du SNCC, qui était le syndicat étudiant noir, disait exactement là-dessus « La peur était immense ». Je ne savais jamais si je serais abattu ou lapidé, c'est une femme, ou quoi que ce soit d'autre. Mais quand nous commencions à chanter, j'oubliais tout ça. C'est-à-dire ça donne la puissance de ces chants face à une violence et une répression qui étaient quand même extrêmement dures.
Et puis chanté par un personnage qui est aussi une figure emblématique du protest song à cette époque-là, c'est John Baez, qui au début des années 60 était déjà connu, mais pas tellement pour des chansons politiques, des chansons engagées, Charles Gancel.
Alors elle était plutôt connue pour son répertoire folk. Elle était dans les mots, en tout cas dans sa vie, elle était engagée, mais dans les mots, elle ne l'était pas. D'ailleurs, c'est ça qui est assez singulier, parce que d'abord, c'est un personnage magnifique. Nous, on l'a redécouverte en écrivant. C'est un personnage engagé, courageux. Elle accompagne les enfants sous les pierres à Granada au moment de la déségrégation des écoles. Elle va en prison. Donc c'est quelqu'un qui s'engage physiquement. Ils sont très peu nombreux. Dylan ne s'est jamais engagé physiquement. Donc elle prend des coups. Et c'est un personnage qui, curieusement, a toujours été un personnage révolté, mais elle a cette voix sublime, qui est une voix angélique et qui est un peu décalée par rapport au caractère rauque de son combat. Et il y a toujours eu cette espèce d'ambivalence dans le personnage. Elle est un tout petit peu trop angélique pour porter les messages qu'elle porte.
Et surtout tenace, alors que Bob Dylan, qu'elle a rencontré auparavant, lui, assez curieusement, nous sommes en 64, il s'arrête de militer. Lui qui disait, on l'a entendu tout à l'heure, « Ce qui ressort de ma musique, c'est un appel à l'action », dit en 1966, déclare en 66 dans le journal Playboy, « Protester n'appartient pas à mon vocabulaire ». C'est clair, ce désengagement soudain de Dylan.
D'abord, s'il se désengage, s'il a été engagé. Il a toujours contesté ce point. On l'a engagé, ouais. On a fait de lui. C'est-à-dire son entourage a fait de lui le porte-drapeau du protest song. Mais en réalité, je le répète, il est plus doué que les autres. Donc on lui donne une cause proteste, il en fait quelque chose de meilleur. Mais sur le fond, il est au service de lui-même, c'est un artiste. Il a cette espèce d'égocentrisme extraordinaire de certains grands artistes.
Et il s'arrête alors que se déclenche la guerre du Vietnam, lorsque le président Johnson, au fond, donne aux chanteurs contestataires l'occasion de se lancer à nouveau dans un autre combat.
La double attaque contre le destroyer américain Maddox dans le golfe du Tonkin, la riposte des escadrilles US contre des bases nord-vietnamiennes ont fait en ce début d'août peser sur le monde une grave menace. Certes, en informant ses compatriotes de ces événements, le président Johnson avait été très net quant à la portée réelle de ces représailles.
Our response for the present will be limited and fitting.
Il y a un Américain qui a crié « Nous, we go to death, nous allons à la mort ».
I got a letter from LBJ, it said this is your lucky day, it's time to put your khaki trousers on. Though it may seem very clear, we've got no job to give you here, so we are sending you to Vietnam. Lyndon Johnson told the nation, have no fear of escalation, I am trying everyone to please. Though it isn't really war, we're sending 50,000 more to help save Vietnam from Vietnamese.
Tom Paxton, Lyndon Johnson, Told the Nation, c'est, et on entend dans cette chanson des propos justement que tenait Johnson, n'ayez pas peur de l'escalade, et puis il rajoute Tom Paxton, on envoie 50 000 soldats en plus pour aider à sauver le Vietnam des Vietnamiens, ça aussi c'est une chanson des protestants très connue de l'époque, à une époque où l'on envoyait, et c'est ça qui a évidemment favorisé le mouvement, où on envoyait donc pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, on envoyait des jeunes Américains se battre au Vietnam.
Oui, tout à fait. On passe en fait de 64 après l'affaire du golfe du Tonkin où deux navires américains sont attaqués par le Vietnam et au nord et on s'apercevra que l'un des deux en fait n'a pas été attaqué.
Le Maddox,
oui. Le Maddox en réalité, l'administration a utilisé ce prétexte pour obtenir les pleins pouvoirs. Mais on va passer en gros d'une trentaine de milliers d'experts américains militaires sur place à plus de 500 000 en 68. Donc on a une escalade extraordinaire à partir de 64, qui coïncide avec deux événements importants. Le premier, c'est que l'affaire des droits civiques se termine en 64 et 65 avec Civil Rights et Voting Rights. C'est donc bouclé sur un plan institutionnel, même si ça n'est pas totalement sur le terrain. Et puis, alors, un événement début 64 absolument incroyable, qui est l'arrivée des Beatles aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est
la... Mais en quoi, justement, Les Beatles, qui ne sont pas nécessairement des révolutionnaires, moins que le seront les Stones, ont révolutionné aussi le protestant, vous le dites, Charles Gansel, dans votre livre.
Parce que jusqu'en 64, la cristallisation des baby-boomers, qui viennent d'arriver à l'université par millions, se fait sur des propos politiques, sur du contenu. Et à partir de 64, il se fait sur le son et sur la forme. C'est-à-dire que c'est la forme, c'est l'électrification de la musique, c'est le rock, c'est le psychédélisme, c'est ça qui va devenir l'univers sonore, qui va cristalliser cette génération au détriment du contenu politique. C'est-à-dire qu'on va voir très rapidement que le texte s'évanouit un petit peu et que c'est le son qui devient le riff, c'est le primat du riff sur le slogan, en gros. Ouais.
Mais on le sent bien justement avec une autre chanson contestataire de cette époque qui s'appelle « I feel like I'm fixing to die rag ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est Country Joe McDonald qui chantait ça.
Alors c'est encore une chanson symbole. Pour ceux qui ont vu Woodstock, ça reste un des grands moments de Woodstock. Et le principe du groupe est toujours de démarrer les concerts avec une harangue qui est faite par le Fish. Le Fish en question, c'est le guitariste de Country Joe McDonald, qui est Give Me an F, et il fait scander par la foule son nom. Et brutalement, à partir de...
F-I-S-H.
S-H, ouais. Voilà. Et brutalement, à partir de 1966, en fait, il se tourne vers la foule, ce qui d'ailleurs leur vaudra des ennuis avec la police énorme, et il ne fait plus scander Fish, mais Fuck, F-U-C-K, qui est le fameux fuck qu'on entend scander à Woodstock.
Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Woo-hoo, we're all gonna die.
Et l'on entend Country Joe, I feel like I'm fixing to die rag. C'est une chanson chantée à Woodstock. Là, c'est l'enregistrement à Woodstock en 69. Un grand moment, bien sûr, dans la chanson contestataire, Charles Gansel, dans le protest song.
Oui, alors c'est un moment célébrissime, clé. Incidemment, et pour la petite histoire, Country Joe McDonald, Joe s'appelle Joseph, et il s'appelle Joseph en l'honneur de Staline, parce que ses parents étaient des communistes américains. Ouais. Bon, alors, évidemment, Woodstock en 69, c'est à la fois un moment charnière, parce que c'est la fin du rêve. C'est vraiment le moment où on va avoir trois jours très symboliques de calme, de musique, pas toujours bonne d'ailleurs, il suffit de regarder le DVD de Woodstock pour s'en rendre compte, mais qui est un moment d'harmonie, de chansons qui rassemble à peu près tout ce qui se fait de bien, en dehors de Dylan, soit dit en passant, qui refuse finalement de participer à Woodstock alors qu'il habite à côté, mais qui rassemble à peu près tous les grands groupes de l'époque pendant trois jours, dans une atmosphère très bon enfant, très réussie, mais qui est le dernier grand festival réussi.
Est-ce qu'on peut dire que cette mobilisation des jeunes a pesé sur l'évolution de la politique américaine au Vietnam, qui se dégrade à partir de 68, l'offensive du Tet, etc. On se rend bien compte que malgré les hommes qu'on y envoie, cette guerre est un peu sans issue. Mais est-ce que, justement, ces chanteurs, contestataires, ont pesé sur cette décision, cette mobilisation des jeunes? Pas de tous les jeunes, d'ailleurs. Assez curieusement, vous rappelez, Charles Gansel, que le grand succès, un des grands succès de cette période-là, c'est pas du tout un protest song, c'est une chanson, au contraire, favorable à l'intervention au Vietnam, et qui était la fameuse ballade des bérets verts.
Oui, the Green Beret Ballad par Barry
verts,
Sadler.
Qui étaient des troupes spéciales envoyées au Vietnam.
Absolument, Barry Sadler, qui était un ancien soldat, un ancien du Vietnam, qui est revenu blessé du Vietnam et qui fait cette chanson précisément pour s'opposer aux protest songs et aux attaques qui sont faites contre la politique américaine au Vietnam. Et d'ailleurs, il y a un événement, c'est qu'une des grandes radios, un jour, fait un concours entre Barry Sadler et ses bérets verts. Et une autre chanson symbole proteste qui est Eve of Destruction. Et en fait, c'est le béret vert qui gagne. Mmh.
Alors, il n'y a pas eu quand même que comme combat que le Vietnam ou les droits civiques. Vous le rappelez, il y en a eu d'autres. Il y a eu, par exemple, les Indiens. Il y a aussi le féminisme. Ils ne se battent pas que pour le retrait de l'Amérique au Vietnam, qui va d'ailleurs se produire au début des années 70.
Oui.
Charles Gansel.
Oui. Alors, en ce qui concerne les Indiens, il faut dire une chose, c'est que c'est pas la musique indienne qui va porter le combat des Indiens. C'est plutôt l'utilisation du blues ou de la musique folk traditionnelle par des gens comme Buffet Sainte-Marie. Qui vont mettre en fait la cause indienne dans les chaussures dans les harmonies du folk. En ce qui concerne les autres causes et la cause des femmes, évidemment, il y a une très grande histoire qui est celle de Respect de Aretha Franklin, hein, qui reprend en fait le titre de Otis Redding et qui le transforme complètement en faisant une chanson féministe, alors que c'est écrit comme une chanson machiste.
Respect, Aretha Franklin, encore une grande figure du protest-song qui décline au début des années 70. Vous citez par exemple une chose qui est très curieuse, parmi les combats que n'ont pas mené ces chanteurs ou ces manifestants contestataires des années 60, début 70, il y a justement le coup d'État au Chili. En 72, on ne trouve plus que 300 personnes devant l'ambassade du Chili au moment du coup d'État de Pinochet. À quoi correspond ce déclin, au fond, du protest-song, Charles Gansel?
Alors, il y a plusieurs facteurs qui permettent d'expliquer ça. D'abord, les dérives violentes, hein, on l'a vu, le festival de Altamont, c'est-à-dire la musique est entachée par des festivals qui se passent mal, comme Altamont, où les Rolling Stones s'invitent pour un concert gratuit. Il y a un type qui se fait trucider devant la scène. Il y a eu la convention de Chicago du Parti démocrate en 68 qui s'est très mal passée, avec des violences extrêmes. Le SDS, qui est le grand syndicat étudiant qui a en fait tenu une grande partie du mouvement, éclate littéralement, et certaines de ces spin-offs, quoi, de ces petits mouvements basculent dans le terrorisme et dans la clandestinité. Et puis, il y a un phénomène générationnel.
Il y a aussi la fin de la guerre du Vietnam, tout simplement, qui retire au fond son aliment principal à la chanson contestataire.
Disons la fin de la conscription.
C'est-à-dire oui, que la fin de la conscription d'abord et la guerre du Vietnam après.
D'un seul coup, les étudiants, il n'y a plus de risque de se voir emmener ruire dans la jungle. Donc ça démotive un peu. Et puis, il y a aussi un phénomène tout simple qui est mécanique et qui est un phénomène générationnel. Ceux qui sont entrés à l'université en 63... en 72, travail. Donc, ils vont plus manifester. Donc, il y a simplement un mécanisme d'épuisement démographique du mouvement qui fait qu'à partir de 72...
Ou un embourgeoisement.
Un embourgeoisement. Et puis, la musique va s'orienter vers un rock beaucoup plus dur, beaucoup plus garage, Detroit, avec le MC5, où on va voir déjà les premières sonorités ou les Ramones. Hein, et on verra les premières sonorités du punk, de ces rocks très durs qu'on verra réapparaître et émerger fortement à la fin des années 70, au début des années 80, à Londres, mais aux États-Unis aussi.
Cela dit, qu'est devenu le protest-song? Au fond, il disparaît, il s'éteint de lui-même, mais les causes n'ont pas manqué. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on pourrait imaginer aujourd'hui une reprise. C'est vrai qu'on a vu, par exemple, à l'occasion de la dernière élection présidentielle aux États-Unis, beaucoup de chanteurs s'engager en faveur de John Kerry.
Alors, d'abord, on a commencé à écrire le livre au moment où les Américains rentraient dans Bagdad. Donc ça c'était pas... Ça nous a touchés. On s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas aux États-Unis, comme à l'époque, une sorte de levée de bouclier par rapport à ça? Alors, on l'a dit déjà, il y a un problème démographique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... Il n'y a pas ce baby-boom, il n'y a pas cette arrivée considérable de jeunes dans les universités en rupture de banc avec la génération précédente, hein, qui était la génération d'après-guerre, et qui par conséquent avait besoin de se trouver des causes pour fixer son identité par rapport à ses parents. Le continuum est plus fort aujourd'hui, et la jeunesse américaine est moins contestataire, moins en rupture de banc avec ses aînés qu'elle ne l'était à l'époque. Alors, il y a quelques efforts, bon, Bruce Springsteen a essayé de lever une croisade, mais sans grand succès. On voit Chevary faire une chanson de proteste. Ça existe, mais ça n'a pas du tout l'ampleur que ça. Et là encore, il faut être très réaliste. On le voit avec beaucoup d'ampleur, avec les yeux de l'histoire, mais en réalité, même à l'époque, il a fallu attendre 69-70 pour que la majorité américaine soit contre la guerre du Vietnam, par exemple. Ça a été très lent. très très lent. Et donc ce qui a fait beaucoup de bruit, parce que les médias étaient là et que ça intéressait les médias de filmer des manifestations, ou des hippies, ou des drogués, donc l'écho médiatique a été considérable, mais la réalité statistique des gens qui étaient impliqués, en fait, est tout à fait différente.
Et puis peut-être au fond que les chanteurs de protest song des années 60 se contentent, et ceux qui les écoutaient d'ailleurs se contentent d'entendre avec nostalgie les chansons de leurs 20 ans, comme on va le faire avec vous, Charles Gansel, pour conclure cette émission, Donovan et John Baez en 1965, Colors.
Yellow is the color of my true love's hair in the morning when we rise, in the morning when we rise, that's the time I love the best.
Je rappelle que Charles Gansel, qui était mon invité aujourd'hui, a écrit avec Yves Delmas le livre « Protest Song, la chanson contestataire dans l'Amérique des 60s » qui vient d'être publié chez Textuel. Il est également l'auteur d'un recueil de nouvelles, Les œufs, publié aux éditions Buchet-Chastel. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1964 dans la collection Le Journal de votre année, disponible en vidéo aux éditions Montparnasse, ainsi que de nombreux protest songs dont vous pourrez retrouver les références sur notre site. Ces références sont disponibles au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Patrick Henry, documentation Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric-Joseph Julien, une réalisation de Anne Kobilac.
That's the time, that's the time, that's the time, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm, when I see her. Mm-hmm, that's the time, that's the time, that's the time, that's the time I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking, mm-hmm. Without thinking.